Bonjour, ici François Nardou de Montcuq. Je vous parle aujourd'hui depuis le studio des Alimons. J'aurais aimé m'introduire en occitan. Aquí en Francesc de Nardou de Montcuq, que vous parli del talier dels Alimons et de la perroquio del bulbe. Nous allons continuer en français. Et nous allons plonger aujourd'hui dans une découverte du Quercy à travers ses paysages, ses milieux naturels, ses us et coutumes, ses traditions. Et nous allons d'abord commencer par aborder le Quercy tel que le voyait au 5e siècle de notre ère un membre de la haute aristocratie sénatoriale de l'Empire romain, pénétrant au-delà du Rhône dans ce qui s'appelait alors l'Aquitaine, au sens large de la Loire aux Pyrénées, de l'océan Atlantique jusqu'au rebord oriental du Massif central. Ce texte traite beaucoup plus de l'Aquitaine garonnaise, le bassin aquitain, le sud-ouest actuel. Et il est particulièrement évocateur de la vision que l'on peut avoir de ces régions aquitaines et garonnaises lorsque l'on vient des pays circonvoisins. Le texte nous dit ceci. « Plus que sur cette terre aux vastes flancs, réminiscence d'Hésiode dans les Travaux et les Jours, celui qui voit pour la première fois l'Aquitaine aux riches moissons, abondante en vignes, bruissante d'abeilles, et en vergers croulant de fruits aux saveurs de miel et d'épices, vertes prairies, bois ombreux et sources fraîches, rivières opulentes et ciel lumineux, celui-là, trois fois heureux, se sent parvenu en paradis. » Pour qui descend en nos pays d'oc depuis Paris vers Toulouse, ressent d'Ébrive en bas Limousin un frémissement dans l'air et la lumière, un frémissement de pays du Midi. Au nord extrême du département du Lot, on se trouve sous le 45e parallèle nord de latitude. On entre alors en des contrées qui sont plus proches du tropique nord et du Sahara, ou de l'équateur et de la forêt vierge gabonaise, que du pôle nord et de l'océan Arctique. On est donc, si vous voulez, plus proche des pays de soleil que des pays de froid et de ciel sombre. Le ciel, l'air, change, même par temps nuageux et gris. Et alors c'est un phénomène qu'ont pu remarquer tous les voyageurs par la route. L'immensité des cosses et leurs fragrances épicées emplissent l'air. Les carcinoles, ou les quercinois parisiens, s'arrêtent aux quatre routes du Lot et contemplent leur pays retrouvé. La Dordogne et la verte douceur de ses soirs, connues par le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, dessinent pour les Parisiens et depuis des siècles une limite au sud de laquelle on entrerait en Gascogne. La vraie Gascogne, la nôtre, commence beaucoup plus au sud. Pour nous, Occitans, la Gascogne, c'est le pays de la Garonne aux Pyrénées. Et ce n'est pas ce qui commence avec la Dordogne. Quoique déjà Montaigne, en son temps, qui était périgourdin et bordelais, se disait et se croyait gascon. Il disait et croyait parler le gascon. En fait, c'était l'Occitan du Bordelais et du Périgord. Lorsque l'on entre en Quercy par Souillac, qui est la meilleure façon de le faire, je me souviens d'une expérience qui m'est arrivé lorsque je redescendais de Paris par le train après avoir passé mon CAPES. Depuis Paris, je n'avais pas vu ni vergers d'arbres fruitiers, ni vignes. Nous avions traversé les solitudes de la Sologne, les verts paysages et les forêts denses et sombres du Limousin, les plateaux plutôt monotones du Berry, les solitudes grises de la Brenne et des bois chauds, les forêts de la Marche creusoise. Nous étions poursuivis par le train et par la route par le sentiment d'oppression qui se manifeste à l'esprit lorsque l'on pénètre dans l'île de France industrialisée et, je dirais, urbanisée. Et cette impression de dureté inhumaine nous poursuivait jusqu'à Brive. Déjà à Brive, on sentait le changement de pays. Et tout d'un coup, pénétrant dans le Lot et plongeant dans la vallée de la Dordogne, nous avons vu, alors c'était un éblouissement, des pêchers, des figuiers, des vignes, des champs de tabac et de maïs, des jardins débordant de fruits et de légumes. Nous pénétrions dans le bassin aquitain dans toute son opulence. Et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi dans le compartiment, nous quittons la barbarie, nous plongeons dans la civilisation. Cette civilisation, du reste, qui pour les germaniques s'appelle la Kultur, c'est-à-dire la civilisation de la Méditerranée, des pays du Sud, ce qui a suscité la naissance du tourisme, mot forgé sur l'expression « le grand tour », usité en Angleterre pour désigner les voyages de découverte de l'Europe et de formation de l'esprit et de la culture, par la découverte de l'Europe qui fut romaine et grecque, Italie, Espagne, sud de la France. Et c'est à Souillac, où un sanglier druidesque a indiqué le lieu où fondait l'abbaye Notre-Dame la Blanche, Nostro Donno la Dalbado, que l'on pénètre vraiment dans les pays du sud par le Haut-Quercy. À Rocamadour, cette Notre-Dame devient la Noire, la Negro. Cette Notre-Dame, blanche à Souillac, noire à Rocamadour, c'est la grande reine du Quercy. Les anciens Cadourques, les Catuturchi, les sangliers de combat, l'auraient appelée la Morrigana, c'est-à-dire la grande reine, ou celle, la Morrigana, la fille de la mer, celle qui est née de la mer, de l'océan. C'est alors à Souillac, du reste, que la vallée de la Dordogne s'ouvre à nous entre des falaises qui ne sont pas de marbre mais de calcaire, et où l'on découvre le Midi Aquitaine dans toute son opulence et ses splendeurs estivales. Il faut savoir que le pays de Quercy est subdivisé ou composé, et depuis l'Antiquité la plus lointaine, de deux contrées différentes. Alors, au nord de la vallée du Lot, s'étendent les grands causses du Quercy, accostées des forêts de la Bouriane, de la dépression du Limargue, du Ségala, pays des châtaigniers. Et ce haut Quercy portait déjà le nom, dans l'Antiquité tardive et le haut Moyen-Âge, de Pagus Niger, de pays noir. Noir parce que tout simplement, pour quelqu'un qui regarde le soleil se lever depuis les hauteurs de Cahors, tout ce qui est à gauche compose le haut pays. Et pour les anciens Gaulois, les Celtes, les Gallo-Romains, ces pays à gauche, lorsqu'on regarde le soleil levant, sont des pays noirs, ce sont des pays que l'on appelle en géographie répulsifs, des pays peu attirants, alors qu'inversement, les pays à droite, les pays au sud, sont des pays blancs de lumière éblouissante, ce sont les pays de toutes les abondances, d'où le nom de Quercy blanc. C'est du reste, lorsqu'on descend dans la vallée du Lot, qu'on aborde Cahors au toit de tuiles romaines, sous la forte lumière que renvoient les versants rocailleux d'Écosse, que l'on a vraiment la sensation d'accéder, d'entrer dans une ville, une cité méridionale, dans la claire lumière des Martins d'été. Alors que Toulouse évoque l'Espagne et l'Andalousie, la Florence et la Toscane, ce sentiment très net de l'âme d'un pays se retrouve dans les paysages et les bourgs d'entre Vallée du Lot et Vallée de la Garonne lorsque, de Cahors, on descend vers Agen et Moissac. C'est alors que le Quercy, jusque-là pays à l'austérité souriante, se fait vers paradis. Alors, le Quercy, qu'est-ce que c'est ? Lucarsi Quesaco. La bonne prononciation, ce n'est pas Quercy, c'est Carsi, Pais de Carsi, c'est le nom occitan. Quercy étant une forme francisée. Le Quercy se compose du Lot et du Tarn-et-Garonne, du moins pour ce qui est du Tarn-et-Garonne, au nord de la vallée du Tescou, Montauban et Moissac sont en Quercy. Castelsarrasin est en pays de Toulouse, en Toulousain. Alors, il y a une vieille étymologie qui n'est pas très admise de nos jours, qui est même rejetée, qui ferait du Quercy le pays des chênes à cause du latin quercus, qui aurait donné Pagus Quercorum, pays des chênes qui aurait dû évoluer normalement en pays de Carcour, ce qui n'est pas le cas, ou de Carcour, ce qui n'est jamais arrivé. En fait, bon, le Quercy, le Pagus Caturcinus, le Pais de Carsi, c'est l'ancien Pagus Caturcinus, le pays des Caturchi, qui est une forme contractée de Catu Turchi, Turchi signifiant sanglier et sous-entendu druide, et Catu combat. Le pays de Quercy, c'est le pays des Cétés, à l'époque gauloise et encore dans le monde romain, le pays des sangliers de combat, et sanglier voulant dire druide de combat, les druides combattants. Mais les chênes n'interviennent guère dans notre toponymie, sauf pour certains lieux locaux. Mais alors là, c'est sous la forme occitane de casse, qui a donné tous les dérivés, et c'est surtout garrick qui intervient le plus. L'ougarrick, c'est le chêne d'Écosse, beaucoup plus vieux que le gaulois casse. Garrick est un nom d'origine pré-indo-européenne, ça remonte jusqu'au néolithique. Le mot garrick annonce les gariotes et caselles, qui parsèment les paysages du Haut-Quercy. et du Bacquercy, du reste, jusqu'en pays de Montcuq. Le pays de l'Auzerte, le Lozertin, ne connaît guère de gariotes et de caselles qui disparaissent un peu au sud de Montcuq et à l'ouest de ce pays, en tirant vers la Genée. Donc notre pays de Quercy et de Carcy est un ensemble de paysages, car le Quercy est extrêmement divers, varié, multiple. Il est souvent très contrasté en ses milieux naturels, ses paysages. On peut passer d'un milieu naturel bien donné à un milieu opposé, à peine à quelques mètres de distance. Je connais des cas où un chemin sépare deux milieux naturels extrêmement différents, un fond de vallée froid et humide, des versants extrêmement chauds et secs. Et ça nous permet d'aborder le sujet d'aujourd'hui en trois thèmes, les paysages et climats. C'est le géographe que je suis qui s'exprime. En seconde partie, les paysages et les milieux naturels, la végétation entre autres choses. Donc là, ce sera l'herboriste de Montcuq qui va se déchaîner. Et là, vous n'aurez pas droit à des recettes de tisane, mais vous aurez droit à des indications. Et enfin, en troisième partie, c'est l'historienne que je suis également, qui explose volcaniquement, ce qui est mon tempérament. Je vous parlerai des paysages et surtout de ce qui peut intéresser beaucoup de gens et qui est l'objet de beaucoup de questionnements des touristes, les noms de lieux et de familles. On entre là dans un pays entre Cahors au nord-est, Agen au sud-ouest, Montauban au sud. Il faudrait, on pourrait même dire Cahors, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Moissac, Montauban. On entre là dans un quadrilatère ou un triangle qu'on pourrait appeler le quadrilatère d'or du Quercy du Sud, des amoureux de la nature, en ses aspects aquitains, garonnais et toulousains. Et ce n'est pas pour rien que j'emploie cette expression et que je délimite ainsi mon sujet, parce que ça a été le lieu qui a été choisi dès les années 1938 après Munich par toute la haute bourgeoisie du nord de la France et de l'Île-de-France comme site possible de refuge en cas d'invasion militaire allemande. Et dans le pays de Montcuq, ma mère connaissait très bien des membres de cette haute bourgeoisie qui lui ont très bien expliqué que dès 1938, ils ont compris qu'il fallait trouver des lieux de refuge. Ils ont cherché sur la carte et une zone leur a apparu comme particulièrement propice à assurer leur sécurité et leur tranquillité. C'était le pays entre Cahors, Agen, Montauban. Donc, centré sur Montcuq et l'Auzerte. Alors, nous allons donc là, maintenant, aborder une première partie après un intermède musical. Et je vais vous parler des paysages et des milieux naturels.
Domani lo premier mai, giro la miro di ranga di un babere mio, giro la miro di ranga di un babere mio, non farei paio paurote, non farei paio paurote, non farei paio un paurote, non farei paio un paurote, giro la miro di ranga che io non hai pasino, giro mi rurina che io non hai basino nannirei a jolly boys nannirei a jolly boys nannirei a jolly boys mi lo dio nannirei a jolly boys giro la mi rurina qui lo mai a uno giro la mi rurina qui lo mai a uno e tu te lo ricupe 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 giro la mi rurina lo russignol cantavo e giro la mi rurina lo russignol cantavo
Giro la mi rurina cadumba veire mio, che fa che c'è con bap. Vous êtes toujours sur Antenne Doc, en compagnie de François Nardou de Montcuq, et toujours dans une balade à travers le Quercy, par la découverte de ses paysages, de ses milieux naturels, de ses traditions. Je vais là maintenant vous exposer ce que la traversée du Quercy évoque à un géographe écologiste, mais pas au sens vulgaire d'écolo. Alors le Quercy, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est les Grands Causses, entre la vallée de la Dordogne et celle du Lot. C'est la Bouriane et les Causses de Catus, vers Luzèche et Préissac. Le bassin de la Garonne moyenne, c'est aussi surtout la vallée de la Dordogne, la vallée du Lot. Les vallées des affluents de la Garonne moyenne, au sud de la vallée du Lot. Il ne faut pas oublier le Limargue et le Ségala, mais aujourd'hui je n'en parlerai guère. Et je me souviens que revenant de Saint-Capré-des-Bois, aux confins du Haut-Quercy et du Périgord, où j'étais allé me fournir un panier de bois chez un boisselier, je traversais les forêts denses de châtaigniers, le châtaignier exigeant des sols acides et un climat chaud et humide à tendance fraîche, châtaignier totalement inconnu en Quercy blanc. J'abordais alors les causses tempérées de Catus par Pont-Cirque et une descente ombreuse et agréable vers Préissac, par Pumaredo. Pumaredo, Pomared, c'est le village des vergers abondants en gros fruits ronds. C'est le sens de Pumo. Poma, c'est le gros fruit rond. On aborde alors la vallée du Lot à Préissac, sous une lumière aquitaine qui annonce l'Aquitaine océanique, l'Aquitaine agenaise et bordelaise. Après avoir laissé Préissac, on remonte par les Cévennes, l'Aïchebenos, l'Aïchemenos, comme on voudra, qui domine la vallée du Lot en pente raide. Et en laissant au nord le bassin du Lot, on aborde une montée assez raide, on aborde ce qu'on appelle au sud le bassin de la Garonne, le versant garonnais du Quercy du Sud. Lorsqu'on aborde la route Cahors-Villesèque-Sauzet-Tournon-d'Agenais, au carrefour dit du Poujol, on entre dans le Quercy blanc et on éprouve un éblouissement soudain de splendeur, de lumière, d'extrême chaleur et aridité estivale qui nous tombe dessus. C'est-à-dire que le Quercy blanc vous explose aux yeux, il vous explose au regard, on y entre brutalement. C'est un passage sans transition depuis les verdoyances ombreuses de la vallée du Lot vers la grande lumière du Quercy blanc, vers le versant garonnais. Et on entre alors dans un pays différent, un pays d'influence sous influence toulousaine et influence toulousaine qui vont en s'accentuant jusqu'à Moissac, Montauban et au-delà. On entre dans le pays qu'on appelait au Moyen-Âge le Pais dels Vals, le pays des vallées, en latin pagus vallium. Les vallées étant celles de rius, c'est-à-dire de cours d'eau, dont les ribieiros, qui ne sont pas des rivières, mais qui sont des fonds de vallées inondables, descendent du nord-est, des hauteurs calcaires de la Bastide de Marnac, vers 350 mètres, vers le sud-ouest, vers la Garonne moyenne, vers Moissac, vers Agen et aussi vers Montauban. On est là dans un pays de vallées qui lacère et se creuse entre les longues lignes des petits causses du sud du Quercy. Ces causses que l'on appelle des cerros, d'où le nom de pays des cerres, ce ne sont pas des cerres maraîchères, hein. C'est exactement le même mot, mais prononcé différemment que l'espagnol sierra, c'est-à-dire de longues barres de relief en hauteur. On entre dans un pays orienté nord-est-sud-ouest, et un pays qui révèle de profondes affinités méditerranéennes dans sa végétation sauvage et son architecture rurale, dans ses us et ses coutumes. On entre dans le pays carcinol du sud. On laisse les Grands Causses, mais on conserve toujours dans les paysages cette notation, cette marque du paysage, qui est dû à la présence de calcaire de nature très différente selon qu'on est en Haut-Quercy au nord de la vallée du Lot ou en Bas-Quercy au sud de la vallée du Lot. C'est pas le même calcaire. Bon, disons qu'au nord de la vallée du Lot et même un peu au sud, ce sont des calcaires dits jurassiques, alors qu'en Quercy blanc, ce sont des calcaires crétacés. Et ces calcaires se prêtent, à cause des techniques de l'ancienne économie rurale, à l'exploitation des ressources qu'offre la roche-mère, si on peut appeler ça ainsi, enfin, le sédiment calcaire, Le Quercy est longtemps resté fidèle au travail du sol à l'arère, l'arère méditerranéen antique, qui ne permet de travailler que des sols secs, des sols légers, des sols faciles à non pas labourer, à retourner, mais à travailler. La charrue, qui est une invention très gauloise et de l'Europe du nord-ouest celtique au sol lourd, ne fut connue en Quercy, le département du Lot essentiellement, mais également le Tarn-et-Garonne, qu'après 1860. C'est-à-dire qu'encore, il y a peu de temps, on labourait à l'arrière. J'ai connu encore dans les années 70, dans la vallée du Bartas sec, du gros buisson sec, en allant de Cahors vers Montcuq, une famille d'agriculteurs de Saint-Rémy, San-Remesi, à la Bastille de Marnac, qui labourait ses sols de fond de vallée, très riches, très rouges, très noirs, très sombres. Il les labourait encore avec la charrue tirée par des bœufs. Le Quercy est donc un pays conservateur, et à ce titre, c'est aussi un pays résistant, comme disent les auteurs de l'histoire du Quercy aux éditions Privas. On est là donc dans un pays où le sol se prête à l'exploitation par l'homme et favorise une architecture particulière qui est celle des constructions en pierre sèche que nous appelons gariotes à Montcuq. Ailleurs, on les appellera des caselles, ailleurs différemment des borios, des boris, des capitelles, peu importe. C'est un type d'architecture en pierre sèche qui est répandu dans tout le bassin méditerranéen et dans tous ses abords, au Maghreb, au Proche-Orient, en mer Adriatique, dans l'ancienne Yougoslavie, on la connaît dans tout le sud de la France. Ce n'est pas une exceptionnalité quercinoise, mais il se trouve que, et je me souviens que passant, revenant de Saint-Capré-des-Bois, donc et descendant vers Preissac, j'avais l'habitude de passer par Pont-Circ, où je rendais visite à un de mes amis du club de natation, au Mas de Vergne. Et la propriété du Mas de Vergne me paraissait très intéressante parce qu'elle rassemble tous les types de gariotes et caselles possibles et imaginables, jusqu'à une grange. Quand on allait par la Bastillette Haute sur le chemin de Tourniac ou Trougnac, je ne me souviens plus très bien, il y avait même un champ, en fait c'était une ancienne nécropole, ou un champ de silos creusé dans le sol et bâti en forme de caselle, mais des caselles enterrées, si vous voulez, avec un trou sommital, un oculus qui permettait de passer du blé ou peut-être autre chose. Car on connaît la même chose du côté de Villesec, à Peschksoil, ancienne Tsoyol, c'est en fait une ancienne nécropole. Et ça m'avait beaucoup intéressé, à cause du rassemblement sur quelques hectares de toutes sortes de types de gariotes et caselles. Alors c'est là que j'ai appris que Jean Lartigot, imperante et grand catursinologue, avait imposé une classification entre gariotes et caselles qui est développée largement dans différents numéros de la défunte revue Quercy Recherche, à laquelle je renverrai les amateurs, avec une bonne bibliographie à la clé. Alors, on retrouve ce même type de caselles et gariotes sur le cos de Limogne, où elles sont beaucoup plus abondantes qu'à Montcuq. Mais Montcuq, évidemment, qui est un site exceptionnel, possède une gariote que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est dans les parcelles, les parchans, comme on dit en gascon, Couvinens, Cantegor, Marmont, lieu proche du Touron, dont j'ai parlé par ailleurs, que se trouve une gariote bâtie par des maîtres constructeurs initiés, dont les structures, la structure, suit une ligne en spirale, une ligne hélicoïdale, qui monte progressivement, autant qu'ils m'en souviennent, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'oculus sommital, qui est un trou, si vous voulez, qui est bouché d'une pierre plate, sur laquelle se trouve une pierre taillée en pain de sucre. Et des connaisseurs m'ont expliqué de quoi y retourner. Ils m'ont dit que ce type de construction est un type de construction dont les secrets se transmettent dans les milieux de compagnons du devoir, et c'est fait pour durer très longtemps. Ce sont des gariotes et caselles qui durent éternellement. Alors que Jean-Luc Oberreiner avait très bien montré, dans ses recherches publiées dans la revue Quercy Recherche, que nos gariotes et caselles ne pouvaient durer longtemps qu'à condition d'être entretenues. Au bout d'un siècle, elles commencent à donner des signes de ruine. Jean-Luc Oberreiner s'était aperçu que les plus anciennes remontaient au XVIIe siècle, et à condition d'être entretenues. Alors à Montcuq, nous avons par contre une autre particularité, c'est une photographe locale qui a réalisé une belle collection de photos de gariotes qui sont très curieuses par leur forme, parce qu'elles vont depuis la ziggourate mésopotamienne jusqu'à la pyramide Maya de l'Amérique précolombienne. Ça amène à se poser beaucoup de questions sur les secrets et mystères du pays de Montcuq. Je vais donc là maintenant passer à autre chose, ce sera plus rassurant, les milieux naturels, les paysages, la végétation. Là, c'est l'herboriste de Montcuq, en fait, c'était ma mère qui était herboriste diplômée d'État, mais j'ai assez longtemps travaillé avec elle dans ce domaine-là pour qu'on me surnomme encore ainsi. C'est l'herboriste de Montcuq qui va vous parler un peu de paysage et de végétation, en même temps que le géographe. Alors je vais continuer mon exposé après une petite pause musicale qui vous remettra les idées, comment dirais-je, au frais.
Mai di bruci che si sente trompetto drini fai la tunde no drini fai la tunde drini fai la tunde no drini fai la tunde se tu sei cucù fazioni no danzo se tu sei cucù fazioni no danzo menario lutur tutto tutto franzo drini fai la tunde no drini fai la tunde drini fai la tunde no drini fai la tunde.
Compagnie de François Nardou, de Montcuq, en Francesc de Nardou, da Montecuq, je préférerais le dire en occitan, et les habitants de Montcuq sont les Montcuquiols. Au Moyen-Âge, ils étaient même les Montcuquiols, d'où le nom du premier toréador de français, Nimeño II, né François Montcuquiol de Nîmes. Et je vais donc vous parler aujourd'hui, après cette petite introduction, des milieux naturels, des paysages, de la végétation. Alors là, c'est carrément, si c'est possible, l'herboriste qui va vous parler. Hein, le fils de l'herboriste de Montcuq, on me surnomme toujours ainsi. Bien, je vais donc vous parler de choses qui, moi, m'intéressent viscéralement, c'est-à-dire les milieux naturels, les paysages, la végétation. Alors, le Haut-Quercy, entre... disons, le nord du Lot et la vallée du Lot, c'est, avec ses grands causses à plus de 300 mètres d'altitude, a un climat un peu particulier. Il y a toujours quelques degrés de moins à Gourdon, à Gramat, à la Bastide Murat, à la Capelle Marival, qu'à Cahors, qui est une ville extrême, l'été, c'est une véritable cuvette étouffante, ou qu'à Montcuq et Castelnau. Montcuq et Castelnau sont les pôles de chaleur et de sécheresse du Quercy lotois, et même du Quercy en général. C'est là que l'on relève les plus fortes moyennes générales dans l'année et saisonnièrement et maximales comme minimales. Quoique Montauban, Caussade et Moissac n'ont rien à... sont mieux placés peut-être. Le Quercy du Sud se trouve à moins de 250 mètres d'altitude. Il est chaud, sec, lumineux. C'est un Quercy de Cosse, au sud de la vallée du Lot, et qui, de nos jours, est en train de devenir zone de production d'olives et d'huile d'olive. Les bourgs de Lozère et de Montcuq, Moissac n'en parlons pas comme Montauban, sont caractérisés par leurs jardins débordant de lauriers roses. Peut-être qu'un jour, on pourra comparer les jardins de Montcuq et de Lozère à ceux de l'Alhambra de Grenade, Alhamara, c'est-à-dire la rouge, le palais rouge, Alhamara al-Kasr, le château rouge. Le Quercy des vallées, lui, différemment, est un pays, que ce soit la vallée du Lot ou la vallée de la Dordogne, un pays de coulées opulentes, de sites abrités sur sol fertile. Les falaises de la vallée du Lot, celles exposées vers le sud, sont caractérisées, c'est les statistiques du département du Lot de Delpont qui nous le disent, au début du 19e siècle, par une flore non seulement méditerranéenne comme sur les côtes du Quercy-Blanc, mais aussi subtropicale, et une flore sauvage. En Quercy blanc, en Quercy du sud-ouest, faudrait-il dire, en Quercy du sud, disons, au sud de la vallée du Lot, en tirant jusque vers Montauban, on s'aperçoit que le paysage de nos jours est extrêmement arboré. Il est très végétalisé, il est même boisé. C'est un aspect récent du paysage. Jusqu'aux années 1950, le Quercy en général, depuis les quatre routes au nord de la vallée, au nord du Lot, jusqu'aux abords de Moissac et de Montauban, était un Quercy sans arbres, d'aspect très aride. C'était l'abondance des troupeaux de moutons et de chèvres qui avait fait disparaître le couvert végétal. Et c'est depuis les années 60, la déprise agraire, l'exode rural, l'abandon de l'élevage des troupeaux de moutons et de chèvres. J'en ai connu encore à Montcuq qu'il n'y avait pas une seule exploitation sans troupeaux de moutons et de chèvres. Et c'est l'abandon de l'élevage des moutons et des chèvres qui a permis à l'arbre de reconquérir le Quercy, de revenir presque dans l'état légendaire du Quercy des origines, couvert d'immenses forêts impénétrables. Alors le paysage de nos jours est très caractérisé dans la traversée du sud-ouest du Quercy, du Quercy blanc, par la largeur des vallées qui descendent du nord-est et des abords de Cahors vers le sud-ouest et la vallée de la Garonne moyenne, des vallées très larges qui sont de nouveau livrées à la culture et des versants couverts d'arbres. On a l'impression d'un pays très, très boisé, très vert, très verdoyant. C'est relativement récent. Et cela évoque un peu le problème de l'évolution du couvert végétal. Parce que on peut se demander comment la végétation actuelle, exigeant parfois les stations à mi-ombre, des orées de forêt, a pu résister pendant des siècles. Il y a une chose qui m'avait frappé, c'est que cette végétation sauvage, ce couvert sylvestre, on appelle ça en termes techniques le saltus, antique et médiéval, c'est-à-dire la forêt. Ici, ça se traduit par un nom curieux d'une plante fréquente en nos régions et ailleurs en Europe, c'est le chèvrefeuille. Bon, le chèvrefeuille européen qui est différent du chèvrefeuille d'Étrurie, dont on connaît quelques exemples en Quercy blanc. Le chèvrefeuille d'Étrurie étant très toxique. Alors le chèvrefeuille ici porte un nom, en occitan on l'appelle le cabrifuel, c'est l'équivalent exact de chèvrefeuille en français. Mais il porte un nom, c'est celui de Mairechelbo, la dame de la forêt c'est la Selbo, la mère de la forêt. On aurait donc, si vous voulez, là, une personnification sous forme d'un végétal, du génie de la forêt, du maître de la forêt, que l'on connaît dans l'Europe, plutôt dans la zone eurasiatique, notamment dans les forêts sibériennes, où les chamans voient dans la forêt la production, comment dirais-je, la présence d'une force inconnue, d'une force indéfinissable qu'on appelle le maître de la forêt. Et qui serait dans nos régions représenté par le chèvrefeuille, c'est-à-dire l'herbe de la chèvre. Chèvre qui intervient dans la toponymie du reste de certains lieux, disons, conservant des restes, des souvenirs d'une certaine ancienne sacralité païenne. Alors ici, dans nos régions, à cause de la différence des milieux entre les Causses et les vallées, vous avez deux types de flore, essentiellement. Vous avez une flore méditerranéenne sur les Causses, et sur les versants des Causses, et dans les combes, et une flore de l'Europe tempérée océanique dans les vallées. Mais bon, il y a des compénétrations. Vous trouverez des exemples de la flore tempérée sur l'Écosse et inversement des exemples de la flore méditerranéenne dans les fonds de vallée. Ça m'arrive souvent. Ce n'est pas exceptionnel. Je laisse de côté pour tout à l'heure la végétation cultivée qui est différente. Alors cette flore méditerranéenne d'Écosse, elle m'a toujours beaucoup intéressé parce que en tant que cueilleur de plantes médicinales pour mon usage familial et non pas pour le commerce, puisque ce n'est plus le cas, j'ai sous la main, dans le pays de Montcuq, de quoi constituer toute une herboristerie familiale. Ce n'est pas les plantes médicinales qui manquent. Avec la flore de nos régions, de nos contrées du Quercy blanc, il y a de quoi soigner tout et n'importe quoi, toutes les maladies possibles et imaginables. On a une flore extrêmement riche, très diversifiée, très abondante. J'ai implanté des plantes médicinales dans mon jardin, des plantes médicinales sauvages qui se sont répandues partout dans mon jardin. Alors l'arbre roi d'Écosse, à mes yeux, c'est le pistachier térébenthe, parce que tout simplement, il est fréquent au Proche-Orient, et il a beaucoup étonné des Levantins en vacances à Montcuq, lorsqu'ils ont trouvé sur l'Écosse ce pistachier térébenthe si fréquent au Proche-Orient. Pistache d'Hervente, qui dans la phytothérapie, même savante, européenne, n'est pas considérée comme médicinale, alors que le Proche-Orient lui attribue des vertus remarquables. Autre arbre bien connu et qui est un véritable marqueur du calendrier agraire, c'est l'érable de Montpellier, dont la mise à feuille au printemps et le rougissement des feuilles à l'automne annoncent les changements de saison. Un autre arbre qui est intéressant et qui est fréquent au Touron, c'est le Rhamnus alaterne, qu'on appelle l'aladerne, qui est un arbre qui marque l'Écosse l'hiver par sa végétation d'un vert sombre qui pourrait faire penser à des chênes verts ou à des oliviers. Et l'aladerne, bon, a des propriétés intéressantes, c'est le pommier de Ramnonte, c'est l'arbre qui introduit au monde des morts. Mais il a un cousin qui lui ressemble fort, la filière à feuilles étroites, qui, elle, est très intéressante parce que il se présente un peu comme le Rhamnus alaterne, mais en petit buisson. Et la filière, qui présente tous les caractères des arbustes des régions arides, est un arbre qui marque les affinités, alors là, je vais en faire sourire certains, subsahariennes des Corses du Quercy Blanc. La filière a des exigences de chaleur, de sécheresse et d'ensoleillement qu'on ne retrouve qu'au Maghreb. Et elle est extrêmement fréquente dans nos régions, de même que l'arbousier, que je connais dans certaines combes au sud de Montcuq, arbousier occidental, les arbres de Judée, qui marquent le cortège du chêne vert, et que je retrouve voisinant avec l'arbousier dans un certain bois que j'appelle le bois des grandes initiations chamaniques de Montcuq, donc bois interdit car trop sacré. Vous avez sur les Écosses les amandiers, qui accompagnaient souvent les anciens mas d'Écosse. Les chênes d'Écosse, le chêne truffier, le petit chêne rabougri que l'on appelle le garrick. On a ainsi toute une flore méditerranéenne qui faisait qu'un des profs de botanique médicale de ma mère, à la fac de pharmacie de Toulouse dans les années 30, venait passer l'été à Montcuq pour herboriser entre Pechmeja à l'ouest et Cantegore à l'est. Il avait remarqué, ce monsieur, qu'il y avait là une flore méditerranéenne remarquable, mais que je retrouve ailleurs. Je la retrouve sur les côtes de Saint-Donès, de Bagat, y compris des colonies de lavande à l'état sauvage, ou même de thym, ou de romarin. C'est particulièrement le cas à Couvignac. Alors, cette flore d'Écosse laisse la place dans les vallées à la flore tempérée océanique, celle qui a donné la flore des chênes, des noisetiers, des noyers, la flore des tilleuls, la flore des ormeaux, nous avons là toute une flore commune à toute l'Europe occidentale et pas qu'au bassin aquitain. Elle n'est pas du tout particulière au Quercy. Elle est extrêmement fréquente et elle est très riche en plantes médicinales. Mais alors, ce qui me paraît curieux, c'est que dans ces vallées du Quercy blanc, si la vallée de la Négue-Vieille, la combe de Cairel, la vallée de la Séoune sont des exemples différents de milieux naturels, il y a une particularité. Alors que la vallée de la Barguelonne, celle du Tartuguier, de la Négue-Vieille sont véritablement marquées par une flore tempérée océanique très riche en espèces médicinales de toutes sortes, notamment les espèces de bord des eaux qui permettent de soigner toutes les maladies causées par le froid et l'humidité. Alors il y a une particularité en vallée de la Séoune, la Séouno qui passe pour froide, c'est qu'elle est très riche en plantes assauvagies qui se sont très bien adaptées au climat de cette vallée de la Séoune. Et là, il ne bénéficie d'aucune protection hivernale. Des figuiers de Barbarie, venus du Mexique, qui abondent sur les talus de la Bréguerie et de Belmonte, et on ne leur met aucune protection hivernale, et ils donnent d'abondantes productions de figues de Barbarie. C'est dans cette vallée de la Séoune et la haute vallée de la Barguelonne, les asphodèles de Palestine, communes au Proche-Orient, les ailes sauvages, et dans cette même vallée de la Séoune, dans les combes froides et ombreuses, des mercuriales pérennes qui sont le signe d'un climat hivernal très froid. Alors on a là, dans cette vallée de la Séoune, des plantes subtropicales, voire même tropicales, qui poussent à côté de plantes qui exigent des hivers froids. On retrouve ce même contraste dans la combe de Couvignac, où alors vous avez véritablement en fond de combe des conditions de milieu naturel très froid l'hiver, lorsqu'il neige, il reste beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Alors, le versant au nord, lui, est riche en flore des milieux, disons, tempérés, océaniques, et le versant au sud est brûlant de soleil et couvert d'une végétation typiquement et exclusivement méditerranéenne, dont des colonies de romarin, de pistachiers térébentes, d'asperges sauvages, d'érable de Montpellier, de redoul, le redoutable redoul, la Coriaria multifolia, qui est un mortel. On a là donc l'illustration même de ce que je vous disais qui caractérise le Quercy. Le contraste violent entre des milieux naturels différents et très proches les uns des autres. Alors, un petit mot. Les versants au sud, on les appelle des Souleliadices. Les versants au nord, des Ibersengs. Alors, toute la toponymie peut y passer. Évidemment, Un autre petit excursus, c'est le fait que dont je vous avais parlé, c'est que le Quercy se caractérise par la consommation en cure de printemps de plantes par ailleurs toxiques. Le Quercy donc illustrerait sa réputation de pays de druides et de chamans, qui en ferait de ses habitants des initiés à des rites et à des cultes que je ne saurais qualifier. Quant à la végétation cultivée de nos régions, elle a beaucoup évolué au long des âges. Elle fait du Quercy blanc un pays de blé, de vignes, d'arbres fruitiers. C'est un pays que j'appelle, pour résumer, le grenier à blé et les tables à vaches du Quercy. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans mes recherches en histoire du Quercy aux archives départementales à travers les registres des notaires de Montcuq d'avant 1540 et même d'après, c'est la taxation des avoines qui prouve des défrichages, puisque les zones défrichées sont d'abord cultivées en avoine depuis des siècles, d'où les dîmes sur les avoines, les dîmes nualios, comme on les appelait, les nouveautés, si vous voulez, les cultures nouvelles. Inversement, à Montcuq, les charges de blé de moins de 26 kg, une demi-carte, la carte faisant 52 kg, étaient exemptées de taxes. On voit dans la charte des coutumes de Montcuq et de Lozerte apparaître la réglementation de la meunerie, du broyage des grains de blé par des femmes, qu'on appelait des pesturesos, du verbe pestura, qui veut dire broyer du grain, avec le pestu, qui est le pilon, si vous voulez. Elle devait broyer le grain sur des pierres, une pierre dormante et une pierre agissante. Il y a une réglementation de la production du pain à Montcuq, de la cuisson du pain. On retrouve la même chose à Lozerte. Ce qui est intéressant encore plus, c'est à Montcuq, dans la charte des coutumes, qui est de la fin du XVe siècle, la taxation et la protection des cultures d'arbres fruitiers, comme les cerisiers, les pruniers, les pommiers, les poiriers, les pêchers, la vigne en treille et la production de fruits secs, les nougalius. Dans les registres de l'Inquisition, on voit apparaître la production de fraises, de pommes, de poires. Et ces fruits étaient séchés pour être exportés par Moissac, la vallée de la Garonne, Bordeaux, vers l'Europe du Nord. On est donc dans un pays de culture fruitière depuis le Moyen-Âge. Culture fruitière qui se double d'exploitation maximale des milieux par ce qu'on appelait la culture en canses. La culture en canses ou en joual, ça consiste à planter des rangs de vignes, comme planter d'arbres fruitiers, rangs de vignes entre lesquels on cultive des légumes, ou même des céréales, ou des fruits secs. Ce qui apparaissait dans les actes médiévaux, c'était les redevances que devaient payer les habitants de Montcuq au curé de Saint-Hilaire sous forme de légumniaces, c'est-à-dire de légumes secs, fèves et pois, fabos et ceses, mais également de chair salée, laicar salados. Au fond, c'est l'origine des quartiers de canard, d'oie et de cochon cuits et conservés dans la graisse. Ça amène à aborder une question qui est très à la mode, c'est celle de la cuisine du Quercy. Alors le Quercy, est-il un pays de grande cuisine ou un pays de bonne cuisine ? Moi, ma mère était une excellente cuisinière, elle n'était pas la seule à Montcuq, il y en a beaucoup d'autres. Et j'ai appris comme ça j'ai entendu parler de beaucoup de recettes, à commencer par le pastis. Mais le Quercy, était-il un pays de grande cuisine ? Pour les gastronomes du 19e siècle, c'était un pays où la cuisine était, elle est toujours, sans beurre. Et sans reproche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remontée acide. C'était un pays de haute liesse et de franche lipée. La cuisine du Quercy, à mes yeux, ce n'est pas du tout celle pour les touristes. C'est celle des mères de famille du pays et qui est obligée à passer 5 heures à table, pas moins. Alors tout le monde n'est pas capable de nos jours de passer 5 heures à table et n'en a pas forcément envie. C'était tout de même la grande cuisine du Quercy. Et je me souviens d'échanges de recettes de cuisine entre ma mère et nos voisines, alors ma grand-mère charentaise, en apportant de son côté lors de ses séjours à Montcuq. Et ça a donné naissance à des recettes, évidemment, qui sont des recettes de transmission et de tradition familiale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous allons ensuite passer à un sujet encore plus intéressant, les noms de lieux et de familles d'après l'étude des paysages du Quercy. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. J'espère ne pas vous avoir lassé ni fatigué. Alors, à la prochaine fois, ce sera toujours François Nardou, en Francesc de Nardou da Montecuc, l'ou Montcuquiol, l'herbulaire de Montecuc. Au revoir et tenez-vous bien, tengats buscrane.
La ronde du Quercy, ça commence par... de giù il pondeli, un laderi, Margarido se bagno.
De giù il pondeli, un laderi, Margarido se bagno.
E lo se bagno, paladerine, lavora bugato.
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 Ma son tre cavalli e laderi, tre scavalli e d'armato.
Son tre cavalli sladeri, tre scavalli e d'armato.
Qua son tre cavalli sladeri, tre scavalli e d'armato.
Qua son tre cavalli sladeri, tre scavalli e d'armato.
Son fellude da baladeri che non ve lo lavairo.
Son fellude da baladeri che non ve lo lavairo.
Passano tre cavalli e laderi, tre scavalli d'armato.
Passano tre cavalli e laderi, tre scavalli d'armato.
Passano tre cavalli e laderi, tre scavalli d'armato.
Su fellu della balla di Riccolo, bello
lavairo. Su fellu